Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Respirer un air pur, avoir accès à la beauté de la nature, manger sainement, c'est cela, vivre dans un bon environnement. Malheureusement, la vitesse à laquelle nous dégradons le monde qui nous entoure transforme ce qui devrait être des droits universels en luxe réservé à ceux qui ont des revenus substantiels. Et oui, la dégradation de l'environnement accroît les inégalités sociales. Nos invités ont réfléchi à ce phénomène qui s'aggrave. Ils viennent de publier un livre efficace, Les inégalités environnementale dans la collection La vie des idées aux presses universitaires de France.
C'est pas du vent sur RFI.
Quelques chiffres pour planter le décor. La moitié de la population la plus pauvre n'est responsable que de 10% des émissions de carbone mondiales, alors qu'elle vit cette moitié en grande majorité dans les pays les plus vulnérables au changement climatique. Une donnée à mettre en perspective avec une autre, 10% des habitants les plus riches de la planète sont responsables, eux aussi, de la moitié des émissions mondiales de carbone, mais ils ne sont que 10%. Et cet écart s'est amplifié depuis la publication du rapport par l'ONG Oxfam en 2015 de ces chiffres. Bonjour Catherine Larère.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne. C'est vous qui rappelez ces chiffres dans le livre que vous avez coordonné sur les inégalités environnementales. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ce livre pour tordre le cou à l'idée couramment répandue que la préservation de l'environnement, c'est un problème de riches ?
D'une part, parce que on voit que c'est faux, que l'environnement n'est pas quelque chose auquel on pense une fois qu'on a satisfait à tous ses besoins, mais que les plus pauvres actuellement sont atteints par les dégradations environnementales dans leurs besoins les plus fondamentaux d'eau, d'air, comme vous venez de dire. Et pour tordre le cou aussi à une autre idée, que la crise environnementale frapperait tout le monde, point. Or c'est vrai qu'elle frappe tout le monde, mais elle les frappe inégalement. D'où ce que vous avez, enfin ce qui se ressort des chiffres d'Oxfam, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui sont le moins responsables de ce qui est en train de se passer. Donc ça a quelque chose d'assez insupportable, or c'est mal connu.
Et parmi les contributeurs, il y a l'économiste Éloi Laurent, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous parlez de la capacité des riches à imposer les coûts de leurs comportements environnementaux aux plus pauvres. C'est cela, les inégalités environnementales ?
En fait, je crois que l'idée importante de ce livre et d'un certain nombre de travaux, dont les miens, c'est d'essayer de lier en fait les deux crises de ce début du XXIe siècle, qui sont d'un côté la crise des inégalités et de l'autre les crises écologiques, les crises environnementales. On voit qu'on a d'un côté une progression tout à fait spectaculaire des inégalités sociales, un rapport récent qui a été publié par l'équipe autour de Thomas Piketty à la fin de l'année dernière montrait que les inégalités de revenus s'étaient aggravées dans toutes les régions du monde à des rythmes différents. Et puis d'un côté, on est tout à fait conscient de la dégradation accélérée de la biosphère, changement climatique, biodiversité, écosystème. Et donc l'idée, c'est de montrer en fait qu'il y a un rapport entre ces deux crises. C'est pas complètement une coïncidence si elles se produisent et si elles s'aggravent depuis 30 ans. Et donc les inégalités environnementales, c'est le visage des inégalités sociales aggravées par les crises écologiques. Ce dont vous parlez, c'est-à-dire le fait que les riches parviennent à imposer le coût écologique de leur comportement aux pauvres, c'est l'idée selon laquelle les inégalités sociales nourrissent les crises écologiques. Là, avec les inégalités environnementales, on est dans la relation réciproque, c'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle les crises écologiques vont encore aggraver les inégalités sociales. Mais vous avez raison, il y a bien un double lien. C'est-à-dire, il y a d'un côté le fait que la crise des inégalités renforce les crises écologiques, et en retour, les crises écologiques vont faire encore plus augmenter les inégalités sociales.
Alors ces inégalités existent au sein des pays riches, notamment à travers, Catherine Larère, le lieu d'habitation.
Oui, alors on pourrait dire que la relégation environnementale renforce et accompagne la relégation sociale. C'est-à-dire plus on est obligé par la faiblesse de ses revenus, la faiblesse de son patrimoine, de vivre dans des quartiers pauvres, plus le risque d'être soumis à des problèmes de diverses pollutions, des airs, des eaux, est grand. Et c'est pas uniquement une question de, ben, quand on n'a pas d'argent, on loue dans des endroits pas extraordinaires. C'est aussi que ben, ceux qui prennent les décisions, c'est ceux qui ont accès, la possibilité d'avoir accès à un bon environnement. Et que ceux qui supportent l'implantation d'usines de déchets ou de choses de ce genre, ont généralement pas accès à la décision.
Alors, Éloi Laurent, vous écrivez vous quelque chose d'incroyable. Vous dites, en gros, en France, hein, plus il y a pourcentage de personnes d'origine étrangère dans une ville, plus il y a des chances d'avoir un incinérateur dans sa ville.
Non, c'est pas du tout incroyable. On sait très bien que la France qui promet l'égalité républicaine à tous ses citoyens, en réalité pratique des discriminations absolument massives à l'égard de ces minorités visibles, qu'il s'agisse de la ségrégation urbaine ou de discrimination sur le marché du travail, sur le marché du logement et de manière générale dans la vie quotidienne. Il y a des dizaines et des dizaines d'études qui montrent que la France n'est absolument pas à la hauteur de la promesse républicaine. Par exemple, les études de l'OCDE sur le système éducatif montre que c'est en France, dans l'OCDE, que les minorités réussissent le moins bien comparé aux populations natives de France, enfin aux populations, disons, autochtones. Donc c'est pas du tout surprenant qu'il y ait aussi une dimension environnementale à ces discriminations et à cette ségrégation. C'est d'ailleurs comme ça qu'a commencé le mouvement de la justice environnementale aux États-Unis, puisque c'est dans le prolongement de la lutte pour les droits civiques, dans la droite ligne du combat de Martin Luther King, dont on célèbre cette année le cinquantenaire de l'assassinat, qu'un certain nombre de militants des droits civiques ont commencé dans les années 80 à s'enquérir non seulement du fait de savoir si les gens pouvaient voter, ça a été réglé dans les années 60, de savoir s'ils avaient accès, comme disait Martin Luther King, non seulement au droit d'entrer dans un café, mais de pouvoir aussi s'acheter un hamburger au comptoir. Donc ça, c'est la question de la justice économique. Et puis après, troisième phase, la justice environnementale. Et dans les années 80, le premier rapport sur la justice environnementale sur le plan empirique a été mené aux États-Unis, et on a constaté qu'il y avait un lien tout à fait clair entre la couleur de peau des habitants et la qualité environnementale. Et de façon totalement non surprenante, on retrouve évidemment ça en France. Simplement, en France, c'est mal documenté, mal connu, parce que de manière générale, la France refuse à reconnaître le traitement qu'elle impose à ses minorités visibles. Mais évidemment, il y a une dimension environnementale. La Seine-Saint-Denis est un des endroits dans lequel, évidemment, il y a à la fois le plus d'étrangers, le plus de populations immigrées, et aussi le plus de nuisances environnementales, de problèmes de toxicité, etc., etc. Donc la pauvreté, la couleur de peau, ces deux phénomènes, ces deux critères n'étant pas d'ailleurs indépendants l'un de l'autre, évidemment, sont très corrélés à la question de la qualité environnementale. C'est pas au milieu du 7e arrondissement de Paris qu'on va mettre un site toxique, pour parler clairement.
Alors, il y a donc inégalité d'exposition aux risques, comme la pollution de l'air, le bruit, les produits chimiques, tout ça a un impact sur la santé, sur l'espérance de vie. Alors, on peut se dire qu'il y a des initiatives qui pourraient changer un peu la donne, par exemple les éco-quartiers, qui sont des quartiers plus respectueux de l'environnement, de la qualité de vie, etc. Sauf que, Catherine Larère, ces éco-quartiers sont réservés aux riches.
Voilà. Donc, très souvent, les non-accès aux éco-quartiers que les plus riches. Et donc, on peut dire que les inégalités se creusent par les deux bouts, les inégalités environnementales, étant donné que les plus pauvres, les plus défavorisés sont dans les situations les plus difficiles, mais que les plus riches sont aussi ceux qui ont accès aux ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire qui peuvent habiter près d'espaces verts. Et donc, et ça devient une denrée recherchée. C'est pourquoi on peut quelquefois quitter le centre du 7e arrondissement pour aller, je ne sais pas moi, près du Bois de Boulogne ou quelque chose de ça.
Alors là, il faut connaître la géographie parisienne, mais ça le 7e arrondissement à Paris est au pied de la Tour Eiffel. Donc si vous ne connaissez pas Paris, vous comprenez quand même qu'être au pied de la Tour Eiffel, ça coûte très cher du mètre carré. Et il y a certaines villes, oui, en effet, autour de Paris qui sont très prisées et qui valent très cher. Et puis, il y a les inégalités qui concernent l'accès aux ressources naturelles qui parfois sont vitales. Vous en parliez, Catherine Larère, la crise environnementale diminue ces ressources ou les dégrade. Je vous propose d'aller au Togo, un pays classé au 159e rang des pays de la planète en termes de développement humain. L'accès à l'énergie y est particulièrement sommaire. Même à Lomé, la capitale, seulement un tiers des habitants sont reliés au gaz. Résultat, l'essentiel des Togolais utilise le charbon.
Je m'appelle Dagovi Afiwa. Je suis secrétaire dans le marché de Rankope. Nous vendons du charbon. Le charbon maintenant devient de plus en plus cher. Les lieux de ravitaillement deviennent de plus en plus loin, si bien que la vie devient un peu difficile parce que nous n'avons pas accès aux marchandises que nous vendons. Il y a de moins en moins de bois. Nous courons vers les bois jusqu'au nord maintenant, à Mango, à Bassa, à Pagala.
À plus de 500 km de Lomé.
Oui, à plus de 500 km de Lomé. Donc, la rareté du bois fait que nous devenons de plus en plus inquiets de nos activités. Nous avons un syndicat maintenant pour pouvoir faire du reboisement, mais le reboisement au Togo ne sont que des techs. Or, les techs ne sont pas appropriés pour le charbon. Nous voulons maintenant que le gouvernement s'engage à accompagner les syndicats pour faire un vrai reboisement qui puisse réanimer ou bien revivre la forêt togolaise pour protéger notre environnement.
Parce que le teck, c'est les arbres qui sont coupés derrière nous. Là, en fait, on les fait pousser en 2-3 ans, on les coupe pour justement les remettre dans le marché. Donc, ce n'est pas du reboisement à long terme.
Non, les teck ne sont pas du reboisement à long terme.
Vous utilisez le charbon, vous ?
Oui, j'utilise du charbon. Au moins 3000 francs de charbon par mois. Nous sommes au nombre de 6. Et avec ces 3000 francs de charbon, je fais un mois avec le foyer amélioré.
Est-ce que c'est vraiment efficace ? Vous consommez moins de charbon ?
Oui, ça fait beaucoup d'économies.
Mais en même temps, c'est pas bon pour votre travail, puisque du coup, vous vendez moins de charbon.
Ça fait moins de travail, mais pour sauvegarder l'environnement aussi, ça doit aller comme ça. C'est pourquoi nous sommes très inquiets maintenant. Bon, du jour au lendemain, on ne sait plus comment est-ce qu'on va faire. Donc, quand nous utilisons les foyers améliorés comme ça, ça diminue la consommation et ça sauvegarde aussi la forêt. C'est pour cela même qu'on veut de vraies essences qui peuvent nous sauvegarder nos activités.
Parce que sinon, il n'y aura plus d'énergie pour faire la cuisine au Togo.
Oui, on n'aura plus d'énergie pour faire nos ménages. On ne sait plus ce qu'on va devenir.
Et cette dame est vendeuse de charbon au marché de Lomé et elle a conscience des enjeux environnementaux. Elle dit il faut faire attention, il faut utiliser des foyers améliorés. Enfin là, on voit, c'est pas la double ni la triple, c'est la quadruple peine.
Et c'est ce que Joan Martínez Allier, qui est un économiste écologique, appelle l'environnementalisme des pauvres. On voit bien que c'est pas un luxe de riches. C'est dans leur milieu de vie que les plus pauvres sont atteints et développent, on l'a vu effectivement, une conscience écologique nette et se battent pour l'amélioration de leur milieu de vie. C'est le même type, je veux dire, ils se battent pour eux et pour l'environnement en même temps.
Et Éloi Laurent, comment réagissez-vous à ce témoignage ?
Bah là, je crois que est concentré quand même une somme tout à fait considérable de problèmes environnementaux liés à la question de la pauvreté mondiale. La question évidemment qui n'est pas évoquée, c'est la question de santé publique, parce que faire la cuisine au charbon, si vous voulez, c'est évidemment extrêmement dangereux pour la santé. Et donc, on a un problème bien connu, qui est que la pollution de l'air dans les pays en développement n'est pas tant la pollution de l'air extérieur que la pollution de l'air intérieur, et notamment du fait de l'usage de fours à bois qui sont défectueux et de biomasse, en effet, comme combustible principal, mais le fait généralement d'utiliser des combustibles solides, évidemment, provoque des problèmes respiratoires aigus et tue des dizaines de millions de femmes et d'enfants par an dans les pays en développement. Donc vous avez à la fois la question de la préservation de la ressource forestière, vous avez la question de la santé, vous avez la question de l'économie de l'énergie. Bon, la question de l'énergie, en effet, mais donc là, on a une forme, si on peut dire, extrême de précarité énergétique, mais je crois que ce qui est très important à chaque fois, c'est bien comprendre qu'on est en un sens vraiment sur la même planète, c'est-à-dire que la précarité énergétique, elle touche aussi les Français. C'est-à-dire qu'il y a quand même en France, selon certains calculs, 7-8 millions de ménages qui sont concernés par la question de la précarité énergétique. Si vous voulez, c'est quelque chose de considérable. Vous avez par exemple la Fondation Abbé Pierre qui documente ça année après année, et vous voyez que sous l'effet de faibles revenus, de logements mal isolés et de prix de l'énergie qui sont extrêmement volatiles et qui ont tendance à réaugmenter après avoir fortement baissé après après avoir augmenté, puisque c'est d'une volatilité totale, eh bien, vous avez des gens qui sont replongés dans la pauvreté du fait de l'énergie. Hein. C'est ça l'idée de la précarité énergétique, c'est la précarisation sociale par l'énergie. Donc oui, précarité énergétique dans le monde, il y a plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas encore accès à l'électricité, mais précarité énergétique aussi en France. C'est vraiment ça le sens de mon chapitre dans ce livre, c'est de montrer que ces questions-là ne sont pas des questions de pays en développement, c'est des questions qui s'opposent très directement à la France. Et si on garde cette question de la pollution, et cette fois de l'air extérieur, bah regardons les statistiques qui viennent de sortir sur Paris, qui est une ville incroyablement riche, prospère, opulente, dans laquelle les enfants grandissent avec un air qui est extrêmement dégradé et qui va avoir un impact très très fort à long terme sur leur santé. Et on parle pourtant bien de Paris.
C'est pas du vent sur RFI.
Allô et blague dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi, mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes en compagnie de la philosophe Catherine Larère et de l'économiste Éloi Laurent aujourd'hui à l'occasion de la publication de leur livre intitulé « Les inégalités environnementales » publié aux presses universitaires de France. C'est un livre très efficace qui démontre à travers la contribution de plusieurs auteurs que la préservation de l'environnement est un enjeu social car sa dégradation affecte en priorité les plus pauvres. Et Catherine Larère, vous citez l'extrait d'une note, alors là je dois dire je suis presque tombée de ma chaise, une note d'un économiste en chef de la Banque mondiale qui date de 1991, Lawrence Summers, on va le citer quand même, hein, qui écrit alors à ses collègues que la délocalisation d'industries polluantes vers les pays les plus pauvres est rendue souhaitable par le fait que la valeur donnée à la vie dans ces pays est plus basse. Alors c'est un propos évidemment extrêmement choquant, bien entendu, mais c'est pourtant ce que nous avons fait, comme l'explique très bien le journaliste Guillaume Pitron, auteur de « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique » aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Grâce aux métaux rares et aux terres rares, les Chinois sont capables de produire des énergies vertes à foison et d'être aujourd'hui les leaders de la transition énergétique. Sauf qu'il y a une face cachée. C'est-à-dire que les Chinois ont assumé dans les années 80, dans le vide laissé par les Occidentaux qui ne voulaient pas entendre parler de mines chez eux, ils ont assumé le leadership, voire le monopole, de la production des métaux rares pour le reste du monde. Et ils ont inondé, envahi le monde pendant les années 80 de métaux rares à bas prix, au prix d'un immense dumping social et environnemental. C'est-à-dire que l'extraction des métaux rares en Chine n'a pas été faite en incluant dans le coût de ces métaux le prix du nécessaire traitement écologique de ces métaux dans des normes environnementales. Et ce faisant, la Chine a complètement saccagé son environnement. Elle l'a saccagé pour des tas de raisons, mais notamment parce que ces mines ont été en fait un chapelet d'enfer de Dante. Et donc ce que j'ai vu à Baotou et en Mongolie intérieure, eh bien c'est finalement le bas-ventre de la transition énergétique, cet angle mort dont personne ne veut parler, qui est ces conditions absolument désastreuses d'extraction du minerai et de raffinage du minerai, sans lesquelles finalement on ne peut pas faire d'énergie verte. Et ce que j'ai découvert, c'est que pour faire du propre, eh bien il faut faire du sale.
Voilà le bas-ventre de la transition énergétique.
Ouais, je ne sais pas si on ne pourrait pas se plaindre d'un point de vue féministe, du bas-ventre. Enfin bref.
Mais tout le monde a un bas-ventre.
Oui, non, mais bon.
Donc en tout cas, voilà un bel exemple d'inégalité environnementale. C'est vrai qu'on utilise nos téléphones portables ou pour certains les voitures électriques en ayant l'impression que ça ne pollue pas, c'est juste que ça pollue ailleurs.
Et que ça consomme des métaux rares, non recyclables, polluants, et que donc il y a une sorte d'exportation des externalités de la production économique.
Et là, ça crée une forte inégalité aussi.
Bien sûr, c'est ce que Johan Martinez-Allier appelle la dette écologique, c'est-à-dire que à l'idée d'un échange économiquement inégal entre les pays riches et les pays en développement, au sens où les pays qui sont producteurs de matières premières ne sont pas, l'échange n'est pas égal au niveau des valeurs, mais en plus, il est inégal écologiquement, en ce sens que dans le prix de ce qui est acheté, les externalités, donc les effets non payés de l'extraction ne sont pas pris en compte. Si bien que les pays, non seulement s'appauvrissent en ressources, donc qui ne sont pas payés à leur prix, mais en plus, ils dégradent très gravement leur environnement.
Et Johan Martinez-Allier, c'est ce que vous dites dans votre livre, hein, dit que ça perpétue la logique coloniale de domination économique du sud de la planète par le nord.
Elle est post-coloniale, mais elle obéit à la même logique.
Mais Éloi Laurent, c'est justement le transfert de ces coûts sociaux et environnementaux qui permettent à l'économie de marché de fonctionner.
Oui, enfin, deux remarques là sur l'extrait qu'on a entendu. D'abord sur cette question du fameux mémo de Larry Summers de la Banque mondiale à l'époque où il était économiste en chef. Bon, c'est toujours un économiste extrêmement puissant. Hein. Il a été président d'Harvard, il est toujours professeur d'économie à Harvard, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très écouté aujourd'hui dans le monde et qui n'est jamais spécialement revenu sur ses propos. Tout simplement parce que c'est une pratique standard des économistes conventionnels que d'utiliser ce qu'on appelle la valeur d'une vie statistique pour évaluer le coût ou le bénéfice des politiques environnementales.
Et vous ne trouvez pas ça choquant ?
Bien sûr, si, c'est très très choquant. C'est pas seulement, simplement ce que je vous dis, c'est que c'est pas seulement Larry Summers, si vous voulez. On résume toujours ça à l'idée que Larry Summers a écrit dans les années 90 un mémo qui a été fuité par des économistes.
Ouais,
et
vous
que
voulez
ça
dire
fait
c'est
scandale.
Pire que ça, ils sont plus nombreux.
Aujourd'hui, toutes les institutions internationales qui font de l'évaluation des politiques environnementales utilisent la valeur d'une vie statistique. Si vous prenez les valeurs qu'utilise l'OCDE, vous verrez que la vie d'un Chinois, c'est 1,1 million de dollars et que la vie d'un Américain, c'est quasiment 5 millions de dollars. Et que la vie d'un luxembourgeois, c'est 6,5 millions de dollars. Et la raison, c'est qu'on pense que les flux de revenus générés par les individus vont être plus importants dans les pays riches que dans les pays pauvres, donc c'est complètement trivial comme raison, et que c'est parce que les flux de revenus vont être plus importants que s'ils disparaissent, finalement, ils vont coûter plus cher. Et donc, dans cette logique-là, ça n'aurait de sens de mettre des politiques environnementales que dans les pays riches. Donc, vous voyez que l'usage de certains indicateurs économiques en disent beaucoup plus long sur cette difficulté à comprendre cette logique sociale écologique. Puis deuxième remarque, Sur cette question de la Chine, bon, premièrement, les terres rares, c'est pas seulement pour la transition écologique, c'est d'abord et avant tout pour la transition numérique. Donc il faut pas penser que la raison pour laquelle la Chine détruit son environnement, c'est pour la transition écologique. Ça, c'est un raccourci complet. C'est pour la transition numérique avant tout. Et c'est pour ça que les terres rares sont le plus important. Il y a beaucoup de technologies...
Oui, parce qu'il y en a dans nos téléphones portables, notamment.
Bah oui, il y en a dans plein de choses. Donc il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées par le numérique qui ont besoin de terres rares beaucoup plus que pour la transition énergétique. La transition énergétique, la sobriété énergétique, vous n'avez pas besoin de mettre en l'air votre environnement pour faire de la sobriété énergétique, si vous voulez. Et puis deuxièmement, la Chine détruit son environnement pour bien d'autres raisons que les terres rares. Elle détruit son environnement pour faire de la croissance industrielle, parce que le développement économique chinois repose sur ce qu'on appelle le secteur industriel rural, et que vous avez aux frontières des villes, des espaces urbains et des campagnes, un certain nombre d'usines, etc., qui s'installent, qui vont polluer les rivières. Mais c'est pas seulement pour des terres rares et pour faire la transition écologique au nord. Hein. Je crois que cette vision-là est totalement fausse. Donc il ne faut quand même pas raconter n'importe quoi sur ce sujet.
Et alors le principe, ça reste quand même le fait que c'est le sacrifice de beaucoup pour le plaisir de quelques-uns.
C'est ce que Catherine disait, c'est-à-dire c'est l'externalisation. Il y a un mythe qui court dans l'économie de l'environnement qui s'appelle la courbe environnementale de Kuznets. Donc Simon Kuznets était un économiste de l'environnement à Harvard qui, dans les années 50, a inventé une courbe qui relie la progression du développement à la hausse puis la baisse des inégalités. Et ça a été réinterprété dans les années 90 comme le fait que plus vous développez, plus au début les dégradations environnementales augmentent, puis après elles diminuent. Bon, ce qu'on a oublié, c'est qu'en fait elles diminuent dans les pays riches parce qu'ils ont externalisé en fait tout le coût de leur développement économique dans les pays pauvres. C'est ce qui fait par exemple que vous avez en France un bilan carbone qui en apparence est assez bon, c'est-à-dire que depuis 1990 les émissions de gaz à effet de serre c'est à peu près zéro en termes d'augmentation en France. En réalité, si vous calculez en termes de consommation, c'est-à-dire de produits importés notamment de Chine, vous avez une augmentation de 15 ou 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous calculez les émissions de gaz à effet de serre seulement sur une base territoriale de production, vous n'allez pas du tout capter cette externalisation des coûts écologiques, et si vous la mesurez en termes de consommation, là vous allez la capter, puisqu'on a externalité des industries polluantes qui nous reviennent sous la forme de carbone importé.
Les exemples sont flagrants avec les grandes crises écologiques contemporaines que sont les changements climatiques, la destruction de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes un peu partout. Toutes ces crises révèlent partout et aggrave partout les inégalités sociales, comme le disait Éloi Laurent, dans les pays riches comme dans les pays pauvres.
Tout à fait. C'est-à-dire à imaginer même qu'on arrive à améliorer la situation économique des plus pauvres, ils risquent d'être reprécipités dans la situation d'avant par la dégradation environnementale.
Mais donc je repose la question, Éloi Laurent, la cause fondamentale de ce système, enfin de cette situation, c'est quand même le principe de l'économie de marché, non ?
Non, c'est le principe du capitalisme plus que de l'économie de marché. C'est-à-dire le capitalisme est un système dans lequel on privatise les gains, on mutualise les pertes. C'est vrai sur le marché financier, c'est vrai aussi sur les questions écologiques. Donc ça, c'est vraiment la logique en effet capitaliste. C'est-à-dire la logique ou capitalistique, c'est de privatiser les gains et de mutualiser les pertes. Donc vous allez faire en sorte de tirer... Il y a un économiste qui est très important dans les travaux sur les liens entre inégalité et environnement, qui est James Boyce de l'université de UMass Amherst, et qui dit la raison pour laquelle il y a des dégradations environnementales, c'est qu'il y a des gagnants et il y a des perdants. Enfin, plus exactement, il dit la raison pour laquelle il y a des dégradations environnementales, c'est qu'il y a des gagnants, et la raison pour laquelle il faut s'en soucier, c'est qu'il y a des perdants. Et c'est très juste. C'est-à-dire qu'en effet, dégrader une ressource naturelle, c'est fait parce que ça profite à quelqu'un. Et la raison pour laquelle il faut s'en soucier, c'est parce que ça va nuire à quelqu'un. Et donc, c'est une vision extrêmement juste, comme quoi les économistes ne sont pas complètement nuisibles.
Just look.
Little Anthony dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Nous sommes en compagnie de la philosophe Catherine Larère et de l'économiste Éloi Laurent, aujourd'hui à l'occasion de la publication de leur livre intitulé « Les inégalités environnementales » publié aux presses universitaires de France. Alors nous avons démontré dans cette émission, grâce à votre livre, à quel point la dégradation de l'environnement accroît les inégalités sociales. Maintenant, comment peut-on remédier à cela ? C'est une question à laquelle vous tentez de répondre aussi dans votre livre, on va le voir, c'est assez complexe. Vous en appelez notamment au pouvoir politique qui a un rôle à jouer, évidemment, pour réguler tout cela. Martial Breton nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de Climates et vous croyez à ce pouvoir politique puisqu'avec 17 autres associations, vous avez lancé un appel pour une constitution écologique. Alors de quoi s'agit-il ?
Oui, en effet, il y a quelques mois, bientôt un an maintenant, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir inscrire le climat dans la constitution. On peut prendre ça comme une excellente nouvelle. Depuis, les mises à jour ne sont pas aussi optimistes, à la fois sur le fond et sur la forme. Nous sommes plusieurs organisations, rejoints par différentes personnalités, à dire que ce n'est pas suffisant et pas à la hauteur des enjeux à la fois climatiques, mais aussi écologiques et environnementaux.
Alors il y a des pays qui l'ont déjà fait, d'inscrire le climat ou les enjeux écologiques dans leur constitution.
Oui, tout à fait. On peut citer notamment la constitution tunisienne qui dispose que l'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré. En Côte d'Ivoire aussi, ou encore la constitution de la République dominicaine.
En Côte d'Ivoire, c'est dans le préambule que le peuple ivoirien s'engage à contribuer à la protection du climat et au maintien d'un environnement sain pour les générations futures. Alors vous et les autres associations, que demandez-vous exactement aujourd'hui au gouvernement qui va statuer prochainement sur une loi pour modifier la constitution française ? Qu'est-ce que vous aimeriez en fait ?
En fait, ce qui a été proposé, c'est d'inscrire l'impératif de lutte contre les changements climatiques à l'article 34 de la constitution. Cet article, il définit la répartition des compétences entre le gouvernement et le Parlement. En fait, cette mesure, elle tient juste à dire que c'est le Parlement qui va s'occuper de la lutte contre le changement climatique. Mais il n'y a pas d'ordre, de mission, d'objectif inscrit.
Donc ce n'est pas suffisant.
Ce n'est pas suffisant. Mmh. Et sur le fond, la protection unique du climat peut même avoir des effets pervers. Encore récemment, on avait au niveau européen, au Parlement européen, des discussions sur la pêche électrique. Un autre sujet un peu plus polémique en France cette fois, c'est le nucléaire. Le nucléaire qui est défendu, alors qu'on connaît ça a un impact environnemental très fort sur les déchets radioactifs.
Donc qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, que ce soit inscrit dans l'article 1 ?
C'est ça. L'article 1er qui définit quand même, la première ligne de l'article 1er, c'est la définition de la France. C'est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit solidaire et écologique. Solidaire, ça rejoint tout à fait ce qui a été dit précédemment sur les inégalités environnementales. Et ce qu'on propose en plus, c'est d'avoir des principes écologiques très forts, qui étendent la discussion du climat à d'autres limites planétaires qui ont été citées, que ce soit la biodiversité, mais aussi les océans, bien entendu, le climat, les limites de notre système planète, l'usage des sols. On s'en rend compte, ça recouvre en fait l'ensemble de nos activités.
Et donc, vous avez lancé une pétition que l'on peut signer sur noteconstitutionécologique.org.
Exactement.
Jusqu'à quand ?
Notre objectif, c'est, on a lancé cet appel il y a un mois, mais c'était le lancement d'une campagne. C'était pas un jour J, on a dit on fait une action momentanée. L'objectif, c'est d'ouvrir le débat, d'essayer de rendre public le débat autour de cette réforme pour dire les citoyens et citoyennes peuvent s'emparer de ces questions parce que ça touche tout le monde. On a encore le temps d'agir, mais on n'a plus le luxe d'attendre.
noteconstitutionécologique.org. Voilà, vous vous connectez, vous signez. Catherine Larère, c'est un bon combat, selon vous, pour lutter contre les inégalités environnementales, de vouloir inscrire la préservation de l'environnement pour simplifier dans la Constitution ?
Je pense que ce qui est important, c'est de tenir compte de l'environnement dans les droits de l'homme, de parler d'un droit à l'environnement sain. Parce qu'on le voit sur le changement climatique. Jusque-là, on disait qu'il y avait deux stratégies de lutte contre le changement climatique, la réduction et l'adaptation. Ce qui est une façon finalement technique d'aborder les choses. Tandis que si on part du fait que, on vient de le dire, beaucoup de gens sont victimes des changements climatiques, donc sont atteints dans leurs droits. Les inégalités environnementales, c'est des atteintes dans les droits. Hein. La liberté, elle va avec l'égalité, et si l'égalité est compromise, les droits de l'homme. Donc je pense que bon, c'est important d'avoir des éléments dans la Constitution. Je crois que c'est important de montrer que dans les luttes, les gens se mobilisent sur des questions environnementales pour garantir leurs droits.
Alors justement, certains n'attendent pas après le pouvoir politique, ils prennent leur destin en main, comme Rajagopal qui a lancé la marche des paysans sans terre en Inde, qui a rassemblé des millions de paysans. Il nous explique pourquoi il a fondé son mouvement Ekta Parishad en 1991 et comment son association est devenue de manière non violente un interlocuteur incontournable pour le gouvernement indien sur la question des paysans sans terre, qui serait tout de même plus de 14 millions.
Si we found that the poor people of India.
Donc nous avons constaté que en fait les pauvres en Inde étaient de plus en plus résignés à leur sort, puisqu'ils voyaient leurs terres être prises par les grandes entreprises, etc. Et en fait, ils se résignaient à partir de leur terre pour aller dans les bidonvilles et les villes. Et donc, l'analyse qu'on a faite, c'est que ce n'était pas normal, cette situation, et qu'en fait, il était important de passer dans les villages pour les aider à s'organiser, pour résister à cette évolution, et qu'il ne fallait pas se résigner au fait que les terres allaient être prises par des entreprises pour faire de l'argent, mais qu'on pouvait les aider à résister à ce phénomène.
There are two options for people: either be silent or be violent.
Donc en fait, finalement, face à cette situation, vous avez deux options: soit le silence, soit la violence. Et en fait, le rôle d'Ekta Parishad, c'est d'aider les jeunes, notamment, à comprendre qu'en fait, il s'agit de deux solutions extrêmes: soit laisser faire finalement et abandonner, soit prendre les armes, ce qui n'est pas non plus vraiment une option. Et donc, en fait, il y a une solution, une troisième voie moyenne, qui est celle de la non-violence active. Et donc, c'est là qu'intervient Ekta Parishad pour organiser les villageois et arriver à être une force d'opposition à ce phénomène d'accaparement des ressources par les grandes entreprises.
Et comment s'explique ce phénomène de l'accaparement des terres, ou en tout cas du fait que des gens se retrouvent chassés de leurs terres? Comment ça s'explique, ça?
Many companies are advancing.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 70% des Indiens aujourd'hui qui vivent de la terre, qui la travaillent. Et en fait, les compagnies industrielles, elles sont aussi à la recherche de ces mêmes terres, donc de la terre en soi, de l'eau, de la forêt, puisqu'en fait, ce sont les trois ressources qui peuvent être exploitées pour derrière faire un profit. Et finalement, on a une situation qui est presque une situation de guerre entre deux groupes qui s'opposent et qui veulent la même chose, à savoir ces terres. Mais c'est une situation qui n'est pas du tout limitée à l'Inde. C'est aussi le cas dans certains pays d'Amérique latine. C'est le cas en Afrique. Par exemple, une compagnie coréenne qui s'appelle Bosco, qui est venue dans un état indien de la côte, qui s'appelle Inorissa, voilà, donc une compagnie coréenne, donc qui a essayé d'obtenir 4400 hectares de terre pour exploiter des minéraux. Et donc la population locale s'oppose depuis déjà des années à ces expropriations, puisque aujourd'hui ils travaillent cette terre et donc ils ne souhaitent pas qu'elle soit accordée à cet industriel. Il y a des centaines d'autres cas comme ça, des compagnies multinationales certes, mais aussi des compagnies indiennes qui s'étendent dans d'autres états. Et ça crée des situations de violence extrêmement fortes, avec des gens qui peuvent être poussés jusqu'au suicide face à cette pression des entreprises pour récupérer les terres. Et donc c'est aussi face à cette violence que c'est une forme d'organisation en face est nécessaire, parce que c'est seulement par une organisation un peu conséquente que les villageois arrivent à faire face et à s'opposer à cette expropriation.
La non-violence active pour réduire les inégalités environnementales. Qu'en pensez-vous, Éloi Laurent ?
On sait très bien que la non-violence depuis Gandhi, depuis Martin Luther King, ça ne veut pas du tout dire la non-violence qu'il n'y a pas une action déterminée. On parlait du fait que c'est le cinquantenaire de l'assassinat de Luther King. Cet assassinat, en un sens, a fait plus encore pour la renommée de Martin Luther King qu'à la fin de sa vie, il était très critiqué, et ça lui a donné une aura encore plus grande. Donc cette idée de la non-violence comme une arme qui en fait révèle la violence de l'autre et qui ne veut pas dire du tout la faiblesse, mais bien au contraire une action politique extrêmement intelligente qui vise par la politique de l'amour à révéler la violence de l'autre. Là, on est vraiment au cœur de toutes les grandes luttes qui étaient aussi des luttes pour un meilleur environnement, une fois de plus chez Gandhi, chez Martin Luther King. D'ailleurs, Gandhi et Martin Luther King ont un lien entre eux. Moi, je pense que cette arme de la non-violence pour dénoncer la violence qui est faite à la fois aux plus pauvres et à la biosphère, hein, qui est le grand thème de l'encyclique du pape Laudato Si, c'est-à-dire à la fois le cri des pauvres et le cri de la terre, et montrer en quoi les deux sont liés, une fois de plus dans une logique sociale-écologique, c'est effectivement très important.
Alors dans votre livre, hein, vous écrivez que les économistes, pour l'instant, ignorent ces inégalités environnementales et que les écologistes les nient. Mais écoutez, espérons que ça va faire changer les choses. Voilà, qu'ils vous entendront et que ce livre sera utile. En tout cas, j'invite les auditeurs à le lire car il est extrêmement efficace. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous, nous allons aller en Inde à nouveau, où le gouvernement a créé il y a 8 ans un tribunal environnemental. Alors, est-ce que c'est une solution efficace? Sébastien Farcy, notre correspondant à New Delhi, répondra à cette question.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Non, ils se disent, le Bangladesh, c'est pas cher, c'est pour ça qu'on est là. Si le Bangladesh devient plus cher, on ira au Vietnam ou en Birmanie. L'éthique, on s'en fout, les droits de l'homme, tout ça, c'est des conneries. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du fric. Voilà ce qu'ils pensent.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Il y a 8 ans, l'Inde a eu une bonne idée, créer un tribunal environnemental dont la mission est de protéger l'environnement selon un principe bien établi de pollueur-payeur. Sa mise en place représentait à l'époque une petite révolution dans un pays qui connaît une croissance folle et se préoccupait jusqu'alors peu de l'impact écologique de ce développement. Mais 8 ans après, quels sont les résultats? L'étude d'un éminent centre de recherche permet de dresser un bilan en demi-teinte de ce tribunal environnemental. Bonjour Sébastien Farcy.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à New Delhi, alors donnez-nous d'abord des exemples d'affaires entretenues par ce tribunal.
Eh bien, il y a celle-ci qui a été très médiatisée ici en Inde. En 2013, l'un des gourous les plus influents du pays, qui s'appelle le Sri Sri Ravi Shankar, organise un événement géant le long des berges du fleuve Yamuna, à la sortie de New Delhi. Les défenseurs de l'environnement protestent contre cette installation et l'accueil de centaines de milliers de personnes sur ces zones marécageuses vulnérables. Ils saisissent alors ce tribunal environnemental qui impose, il y a 2 ans, une amende de 650 000 euros contre l'association de ce gourou, de l'argent qui doit servir à réparer tous ces dommages. Plus conséquent, un autre exemple, le tribunal environnemental a pour la première fois condamné, il y a 2 ans également, une entreprise privée pour son rôle dans une catastrophe naturelle. Cette société de travaux publics a été reconnu coupable d'avoir déversé d'énormes quantités de boue dans une rivière lors de la construction d'un barrage, ce qui aurait contribué aux terribles inondations de 2013 dans l'état de l'Uttarakhand, dans le nord himalayen, des inondations qui ont coûté la vie à plus de 5000 personnes. Le tribunal ordonne alors à la société de payer plus d'1 million d'euros de dommages aux personnes affectées. En près de 8 ans d'existence, donc, ce tribunal environnemental national, qui est installé ici à New Delhi, a ainsi traité plus de 25 000 affaires et imposé des amendes allant jusqu'à 25 millions d'euros.
Donc le principe pollueur-payeur est appliqué, comme dans beaucoup d'autres cas, hein, mais la difficulté, c'est évidemment d'arriver à estimer le prix à payer pour les dommages causés.
Oui, tout à fait, Anne-Cécile. C'est l'un des problèmes qui est décrit dans l'étude sur ce tribunal qui vient d'être publié par le Centre pour la science et l'environnement de New Delhi. La justice environnementale ici est balbutiante en Inde et les affaires sont mal instruites par les avocats ou les procureurs. Ceci donne donc peu d'éléments aux juges pour évaluer correctement les dommages et les montants requis pour les réparer. Et il y a aussi un souci plus philosophique, Anne-Cécile. Comment établir le coût de la pollution des sols ou des rivières, des pollutions qui auront un impact sur la santé de dizaines de milliers de personnes pendant des années. Il en ressort donc que les juges ont recours à de vagues estimations pour évaluer ces amendes. Le plus courant est maintenant de réclamer le paiement de 5% du coût d'un projet ou du chiffre d'affaires d'une société incriminée. Le problème révélé par cette étude, c'est que non seulement ce montant n'est pas facile à justifier, donc la sanction manque de crédibilité, mais surtout cette somme est parfois trop petite pour avoir un réel effet dissuasif.
Mais est-ce que au moins ces amendes sont payées et à quoi servent-elles vraiment ?
Eh bien, c'est là que le bât blesse, car dans les affaires les plus emblématiques où les amendes ont été les plus élevées, la partie condamnée a fait appel auprès de la Haute Cour ou de la Cour suprême, ce qui suspend ce paiement, et ceci pendant longtemps. Les chercheurs de l'étude mentionnée ont pris un échantillon de ces affaires et ont conclu que seulement un quart des entreprises ont pour l'instant payé l'amende réclamée.
Oui, ça ne fait pas beaucoup, et dans ces cas-là, à quoi sert l'argent ?
Eh bien, en principe, ces amendes doivent être payées à un fonds dédié pour l'aide à l'environnement qui a été mis en place avec la création de ce tribunal. Mais dans 40% des cas, eh bien, ce tribunal a en fait ordonné leur versement au Bureau régional de contrôle de la pollution et dans 27% des affaires aux agences locales de protection de l'environnement ou à d'autres administrations locales. En gros, ce n'est que dans 12% des cas que ces amendes ont été vraiment dirigées vers ce fonds dédié. Le problème, c'est que toutes ces administrations locales de contrôle de la pollution qui reçoivent l'essentiel de cet argent sont déjà connues pour leur inefficacité et leur gestion corrompue. Et ce sont elles qui tolèrent déjà la pollution des rivières en fermant les yeux sur les rejets toxiques des entreprises, par exemple. Il y a donc plusieurs réformes requises pour assurer la pérennité de ce tribunal environnemental, à commencer donc par un meilleur calcul des amendes pour leur offrir une meilleure crédibilité et puis une redistribution plus appropriée des fonds versés.
Merci Sébastien Farcy.
Merci à vous, dame.
François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et pour sa bonne humeur, disons, quotidienne, et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.